19h-20h. Les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Quel plaisir de vous retrouver, chers amis auditeurs. Oui, franchement, je vous le dis, c'est un plaisir. Parce que si on n'a pas le plaisir, c'est pas la peine de venir à l'antenne, ça c'est sûr. Alors, au sommaire de cette émission, jusqu'à 20h, les informés vous proposent eh bien, tout simplement de commenter, d'analyser, de décrypter l'actualité comme tous les soirs. Waouh, Solal, il a compris, il a dégainé aussi vite que son ombre. Bonjour Solal, ça va, tout va bien? Ça va, super, c'est le réalisateur Solal, hein, qui est derrière évidemment les manettes. Alors, au sommaire de cette émission, chers amis, d'abord, nous allons revenir sur la situation à Gaza. Avec le maire de Colombes, figurez-vous, qui a signé une convention de coopération entre la ville en Palestine, une ville de la Palestine, la ville de Salfit, et Colombes, la seule ville des Hauts-de-Seine à s'engager dans cette coopération avec la Palestine. Ça, ça mérite une clochette quand même. Hein. Effectivement, nous en parlerons avec le maire qui sera avec nous dans une poignée de minutes. Il est coincé dans les bouchons. Il sera là présent, mais on devait démarrer l'émission avec lui. Et ce sera dans un second temps. Nous démarrerons eh bien, avec les sujets d'actualité qui ont retenu notre attention avec les débatteurs qui sont déjà présents et qui veulent s'emparer du micro. Gaza, oui. Alors figurez-vous que la situation est très, très, très préoccupante au point où beaucoup de pays maintenant désormais n'hésitent plus du tout à, évidemment, à dire ce qu'ils pensent, comme la Chine. La Chine qui dit par exemple, la guerre à Gaza est une honte pour la civilisation. Mais il n'y a pas qu'elle, hein. L'armée américaine, sommée par Joe Biden, d'établir un port à Gaza. Vous vous rendez compte? Un port à Gaza pour acheminer de l'aide humanitaire. C'est l'armée américaine qui est sommée, hein, par Joe Biden. Bref, nous en parlerons, nous reviendrons sur ces sujets qui préoccupent très honnêtement, je vous le dis. Également, autre sujet, c'est celui de l'Ukraine. Aucune limite, aucune ligne rouge, aucune cloche. Ça, c'est M. Emmanuel Macron, le président de la République, qui dit, devant les chefs des partis, que la situation en guerre en Ukraine, eh bien, il lâchera pas le truc. Ça sous-entend quoi? Eh bien, nous en parlerons. Et puis 01 53 48 3000, vous venez, vous nous appelez, Solal vous accueille avec plaisir au standard, et vous commentez comme chaque soir. Vous êtes très très nombreux, franchement, de toute la France. Quel plaisir de vous accueillir, je vous le dis clairement. Ça va des auditeurs qui nous écoutent en voiture, en passant pour ceux qui sont dans leur cuisine, dans leur salon, ou ceux qui sont voilà, avec leurs écouteurs, avec l'application Beurre FM. Quelle classe tout ça. Ça fait plaisir, vous allez vous rendre compte, on va faire un clip un jour, hein, pour avoir cette image de nos auditeurs, comment ils écoutent la radio et comment évidemment Beurre FM les accompagne. Le quoi de neuf, eh bien vous le savez, hein, c'est avec le directeur adjoint de l'ERIS qui sera avec nous tout à l'heure, qui nous parlera de son billet d'humeur qui tourne autour de Gaza. C'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant et en toute liberté d'expression.
Les informés. Le face-à-face.
Le face-à-face avec Jimmy Dalidou, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Comment ça va?
Mais écoutez, ça va, on fait aller, malgré les circonstances.
Représentant syndical, CGT,
toujours.
Mais également auteur.
Toujours.
À vos côtés, le porte-parole du mouvement MDC. Bonjour, monsieur Gamal Amina.
Bonjour,
comment ça va? Le micro est ouvert, mais bon, on va l'ouvrir. Comment ça va?
Bah, ça va très bien, comme d'habitude. Bah, il fait beau.
Costume aujourd'hui?
Oui, parce que j'ai eu deux interventions TV, donc
ah oui, d'accord.
Ça mobilise un peu.
Donc les interventions télé suscitent un costume.
Bah, et la radio, hein, on peut le dire.
Non, la radio, il n'y a pas besoin, c'est pas de l'image. Il n'y a pas de vidéo.
Ah, vous êtes toujours en costume, vous, donc.
Oui, il y a la voix. Oui, il y a la voix.
C'est vrai, la voix.
Allez, messieurs. Oui, c'est vrai que moi, je suis toujours en costume. Toujours. Vous avez raison, ouais, c'est vrai.
Avec un petit col roulé.
Là, aujourd'hui, j'ai mis un col roulé.
Ouais, voilà. Pas mal du tout.
J'avais un peu froid ce matin, je sais pas ce qui s'est
toujours
passé.
Toujours beau gosse, Adil.
Toujours beau gosse.
La grande classe, hein.
J'aime bien.
C'est la classe.
Alors, messieurs, vous savez quoi? Nous allons commencer avant de recevoir tout à l'heure, dans un second temps, le maire de Colombes qui viendra nous parler de cette fameuse convention. Alors, la situation à Gaza, vous savez, elle préoccupe beaucoup, très honnêtement. On en a parlé ici, on en a reparlé. D'ailleurs, les auditeurs, je les invite à venir nous en parler aussi. La Chine dit que la guerre à Gaza est une honte pour la civilisation. Une honte pour la civilisation. Tout le monde dénonce cette guerre. C'est, je crois qu'aujourd'hui, Gamal Abina et Jimmy Dalidou, tous les pays commencent à se lâcher. Gamal Abina.
Tout à fait, il y a plusieurs éléments qui sont à retenir. Quand ils disent que c'est une honte pour la civilisation, ils ont raison. On fait un siège.
Pourquoi ils ont raison?
Parce qu'on fait un siège de type moyenâgeux. C'est la première fois depuis des siècles qu'on n'avait pas enfermé une population comme dans un château fort, à qui on interdisait la nourriture, à qui on interdisait l'eau, à qui on interdisait évidemment, parce qu'il y a tout un tas de problèmes qui se posent, le soin. Et le fait de les enfermer, ils n'ont même pas la possibilité de sortir. Ils sont bombardés de façon récurrente, sans aucun moyen de défense. C'est une honte pour cet État raciste. Je parle des dirigeants, je précise tout de même, les dirigeants qui dirigent cet État raciste aujourd'hui, malheureusement. Il y a une opposition qui va se placer, je pense qu'ils vont en finir avec pareil que c'est barbare, mais monsieur Netanyahou, qui est un fan de Mussolini, est bien inspiré. En vérité, il y a une chose qu'il faut rappeler. Même, je fais des analogies historiques, parce que j'ai beaucoup travaillé sur la Seconde Guerre mondiale, même lorsqu'on bombardait, lorsque les barbares nazis bombardaient Varsovie et ensuite les ghettos, il y avait un échappatoire, peut-être pas le ghetto, mais il y avait un échappatoire. On pouvait sortir de la ville. C'est la première fois qu'on bombarde un territoire sans la moindre sortie possible. Et j'ai envie de dire une chose, c'est que ce raciste qui est au pouvoir là-bas actuellement, et qui a des dossiers monstrueux sur le dos, ce raciste a finalement appliqué à la lettre la propagande qu'on prêtait aux Arabes, qui aurait été né d'un mouvement israélien, qui disait tous les Juifs à la mer. Lui, il voudrait tous les Palestiniens à la mer. Il n'y a aucune porte de sortie. Rafah est fermée. Les murs de 6 mètres de haut, il faut quand même s'y figurer, 6 mètres de haut, avec des miradors et des barbelés. Ça vous rappelle rien, ça? Eh bien, ce monsieur a appliqué à la lettre cette barbarie. Et je comprends les Chinois qui ne sont pas forcément les mieux placés pour parler de gentillesse en matière de population. Mais tout de même, ils ne bombardent pas massivement comme c'est le cas. Je rappelle que depuis 5 mois, aujourd'hui, ça fait 5 mois, il y a une moyenne de 100 à 200 morts par jour. Ouais. Et tout le monde le sait, c'est documenté. Et on ne fait rien parce que ce petit poltron, ce petit raciste aujourd'hui qui dirige de façon très autoritaire l'État d'Israël, a décidé d'en finir avec la population palestinienne.
Vous savez, à Rafah, la situation suscite l'effroi. Ça, c'est un témoignage. Il dit, je n'ai jamais vu ça de ma vie. C'est quelqu'un qui, évidemment, représente Handicap International et qui dit que c'est des queues, vraiment, des queues d'enfants faisons donc à Rafah pour récupérer de la nourriture. C'est horrible. Je ne sais pas si vous avez vu ces photos, ces images qui circulent dans la presse, là. Horrible. Horrible, insoutenable d'ailleurs.
Hein. Bah vous avez sur les chaînes arabes, on le voit sur
insoutenable. Effectivement, on constate que les.
Bah, les gamins, moi, ça me déchire quand même. Hein, les
non,
gamins.
Mais c'est plus que ça. C'est plus que ça. Je vais vous dire franchement, ce qui me concerne, je fais partie de ceux qui vivent très mal la situation et surtout et encore comme je
c'est
disais
la famine, hein.
Oui mais encore comme je disais heureusement que nous encore on peut intervenir sur la radio dire ce qu'on pense mais c'est très difficile à vivre. Pourquoi? Parce que on constate qu'effectivement la violence et la barbarie n'a plus de limite pour le gouvernement génocidaire israélien. Et encore une fois, on distingue bien, on trace une ligne de démarcation très nette entre le peuple israélien et le gouvernement génocidaire israélien. Constatant que pourtant le gouvernement génocidaire israélien a perdu sur le plan moral. Sur le plan moral, il a perdu. Il n'est plus légitime sur le plan moral. Au niveau, même vous rendez compte, même certaines puissances qui étaient solidaires d'Israël commencent à se poser la question véritablement d'une désolidarisation parce qu'ils se rendent compte qu'en fait cette perte de cadence, cette chute sur le plan moral et le fait que le gouvernement génocidaire israélien est totalement illégitime commence à poser un véritable problème politique. À quel niveau le gouvernement génocidaire d'Israël prend encore le dessus?
Est-ce qu'on peut dire que les gens sont prisonniers?
Ah bien sûr.
Bien sûr qu'ils sont prisonniers, ils sont soumis, ils sont matraqués, martyrisés, massacrés, ils sont les victimes d'un génocide, d'un des génocides les plus barbares de ces dernières décennies. Et encore une fois, quel est le point sur lequel le gouvernement génocidaire d'Israël est le plus fort? Mais c'est sur le plan financier et militaire. Donc sur le fait qu'il déroule les capitaux et le fric au service de Washington, parce que le gouvernement génocidaire et effectivement raciste d'Israël est le pantin de Washington, qui a pour principale mission de semer chaos, désordre, destruction au Moyen-Orient pour dérouler le projet du Grand Moyen-Orient, un projet qui est très cher pour l'impérialisme nord-américain.
Bon, là, on va loin quand même.
C'est quand même excessivement grave ce qui se passe. Moi, vous dire, je finirai par là. Moi, ce qui me gêne, c'est la passivité générale, l'oisiveté générale, et le fait qu'il y a des milliers d'enfants qui demandent. Ils s'en foutent, tes enfants, franchement. Je vais vous parler franchement. Un enfant, il s'en fout de la politique et tout ça. Ce qu'il veut, c'est vivre condamnablement et manger à sa faim.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Pardon, on n'a pas coupé le micro volontairement. Hein. C'est juste, dès qu'on a les auditeurs, ils sont prioritaires. Et on a, vous savez quoi, Mohamed de Paris. Je crois qu'il est parisien. Bonsoir Mohamed.
Oui, bonsoir. Je ne suis pas parisien. Je habite Paris. C'est pourquoi je dis Mohamed de Paris.
Ah, vous êtes un accent plutôt du sud, vous, non? J'ai l'impression.
Ben oui, je suis de Marseille. Ouais.
Un Marseillais qui est à Paris. Oh là là, attention.
Comment allez-vous?
Attention au choc. Le choc. Bah écoutez, ça va, je vous remercie. Et vous-même, comment ça va, Mohamed?
Oui, ça va. Je vous remercie encore de me recevoir. C'est une très belle radio que vous avez. Merci. Vous donnez la parole à tous les auditeurs. C'est super, une super radio. Je tenais encore à vous le dire.
Bah merci beaucoup, ça fait plaisir. On prend. Et puis merci pour votre fidélité. Allons-y, parlons de sujets qui nous concernent aujourd'hui.
Moi, je voulais encore rappeler pour envoyer encore un soutien. On peut vraiment rien faire à part des mots et des soutiens. pour le peuple gazaoui qui souffre encore et qui, ça fait plusieurs mois maintenant, malheureusement, que des mots. On ne peut même pas envoyer des vivres parce que c'est bloqué et ça ne passera jamais. On peut même... c'est horrible ce qui se passe.
Surtout Mohamed, ce qui est horrible, moi je vous avoue, je vous cache, ce qui est horrible, c'est quand on voit ces enfants faire la queue pour aller récupérer un peu de nourriture. Un peu, c'est même pas. C'est juste un peu. Ils ont leur petit seau à la main. Vous savez, j'ai vu cette image, moi, elle m'a déchiré. Tout petit seau. Et on prend une cuillère de riz et on leur donne. C'est terrible.
Quand j'ai entendu que les Américains.
Une cuillère de riz. Ouais. Et ils se contentent et ils sont contents en plus. Et ils partent. Et voilà. Et ainsi de suite. Et il revient, on remet une cuillère de riz. Et on remet une autre cuillère de riz.
De Gazaoui. Vous m'entendez ?
Oui, allez-y.
Quand on sait qu'il y a 2 millions et quelques de Gazaouis qui sont en train d'être dans la famine et que les Américains, ils larguent, je crois, l'équivalent de 38 000 repas. Ils sont 2 millions et demi, c'est l'équivalent d'une crevette chacun.
Oui.
Mais c'est horrible. C'est une insulte. Ça, c'est pour faire calmer le monde.
Je vous donne un chiffre. 1,4 million de Palestiniens sont réfugiés pour fuir les bombardements.
Dans le sud.
C'est énorme.
C'est énorme. Donc voilà, je voulais soutenir le peuple palestinien et je ne sais plus quoi dire. Hein.
Il faut boycotter pour commencer les enseignes qui ont participé à cette barbarie.
Je ne sais pas s'il faut aller jusque-là.
Oui, c'est légal. Mais ça fonctionne.
Merci Mohamed de Paris.
Ça fait ça. Déjà ça, dans un bon temps, il faut boycotter. Et voilà, pour l'instant, on ne peut pas faire grand-chose, malheureusement. Hein.
Certains.
Nous, les petits citoyens, on ne peut rien faire. Par contre, les grands chefs d'État arabes, ils peuvent faire, mais ils ne font rien. Ça, eux, ils peuvent. Ils coupent les robinets, pétrole, gaz. Ils peuvent le faire. Le Qatar, l'Arabie Saoudite, tous les Émirats Arabes Unis.
Mais les enjeux sont tellement... c'est colossal, vous n'imaginez pas. C'est colossal, l'enjeu géopolitique. Merci, Mohamed, d'être intervenu.
Merci à vous,
monsieur le Marseillais, Mohamed le Marseillais, j'aime bien. Je l'appellerai comme ça désormais Mohamed le Marseillais, qui nous appelle de Paris. 01 53 48 3000, continuez de nous appeler, effectivement. Certains disent que, je vous pose la question, certains considèrent que aller manifester, ça n'a pas forcément un impact, évidemment, sur ce qui se passe à Gaza. Vous dites quoi ?
Non, si. Faut, d'abord, parce qu'il y a les téléphones et parce que les manifestations dans le monde entier qui sont massives, des populations non arabes, pas seulement les arabes, parce qu'on a toujours tendance à caractériser par l'islamité et l'arabité, manifestent massivement. Il y a eu plus de 800 manifestations aux États-Unis, ça n'était jamais arrivé depuis le début de la création de l'État d'Israël. Donc manifester, c'est quoi ? C'est d'abord faire pression sur un plan politique, sur les gouvernements des pays dans lesquels ils manifestent, et ça fonctionne. Que ce soit l'Irlande, l'Écosse, l'Espagne, il y a des pays où vraiment ça commence à fonctionner. Manifester, c'est montrer qu'on n'est pas d'accord avec la barbarie et qu'on ne suivra jamais un Mussolini bis. Manifester, c'est rappeler que, parce qu'ils n'aiment pas ça, ces images qu'ils considèrent comme étant propres au massacre des Juifs et des Russes, on les oublie aussi, pendant la Seconde Guerre mondiale, aujourd'hui, il y a un camp de concentration géant. Alors ça veut dire quoi, concentration ? C'est concentrer les populations. Je ne me trompe pas de terme. Qui devient au fur et à mesure, non pas un camp d'extermination de type nazi avec ce système de machinerie de la mort, on n'a pas ça. Eux, ils sont très, très, très basiques, ils bombardent. Voilà. Le résultat, la mort, c'est la mort. Aujourd'hui, une personne sur deux à Gaza a moins de 20 ans. 70% des morts, c'est des femmes et des enfants. On n'a jamais vu une telle sauvagerie parce que ces messieurs se drapent derrière une agression qui a eu lieu le 7. Effectivement, je répète et le dis tout le temps, lorsque le Hamas tue des civils, c'est du terrorisme, il n'y a aucun problème. Et lorsqu'Israël tue des civils, c'est du terrorisme. Je redéfinis le terme terrorisme. Le terrorisme a été inventé en 1793, après la Révolution française, pour pousser la population dans un acte de terreur généralisé en les tuant massivement, à les suivre dans le mouvement révolutionnaire. C'est ça le terrorisme. Or, le terrorisme, c'est une action contre la population. Quand on fait la guerre, on tue des militaires, on ne tue pas les civils.
Contrairement à la manif.
Rapidement, parce qu'il faut que je la pose.
Non, elle est toujours nécessaire pour deux choses. La première, c'est une position de principe. Une position de principe, une position morale. Et c'est pour ça qu'une manif, elle permet non seulement cette position, elle permet de se conscientiser, c'est un apport d'expérience des luttes. Et troisième chose, il faut toujours s'organiser via les manifs pour devenir enfin une opposition politique. Elle est toujours utile, la manif, elle est nécessaire.
Allez, on revient dans une poignée de minutes, justement, 01 53 48 3000, nous vous attendons. Le standard est toujours ouvert, Solal vous accueille, pour parler de la situation à Gaza, évidemment, cette crise humanitaire qui préoccupe désormais toute la communauté internationale. On est, ça y est, c'est la famine qui s'est installée, donc, à Gaza et à Rafah. A tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h. Les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Les informés, vous le savez, c'est ici que ça se passe, y compris les auditeurs au 01 53 48 3000. Nous vous attendons en direct et pour nous livrer votre point de vue, nous livrer tout simplement votre sentiment sur la situation à Gaza. On disait tout à l'heure, la situation suscite l'effroi. Beaucoup de personnalités, notamment d'ONG et Handicap International, qui dit « Je n'ai jamais vu ça de ma vie ». Alors, les manifestations, je redonne la parole à Jimmy. Oui, alors, qui a été interrompu par la pause concernant est-ce qu'elle sert finalement à
oui,
quelque chose.
Oui, je disais, alors pour finir sur ce qu'on disait ouais, sur les manifs, alors effectivement, c'est les trois points qu'on a soulevés. Mais pourquoi, encore une fois, la manif ne se suffit pas à elle-même. Une manif qui se suffit à elle-même, concrètement, aller dans une manif, c'est nécessaire, c'est important, mais rentrer chez soi après et rester passif ou oisif, ça sert à rien. Et je vais vous dire, en 22 ans de militantisme, je vais, sans vouloir me lancer des fleurs, je sais un petit peu de quoi je parle. Par contre, quand vous sortez de la manif, et que vous avez été en manif, vous avez discuté, vous avez débattu, vous avez créé du lien social, vous avez rencontré des gens qui sont eux aussi soutien à la résistance palestinienne, résistant à ce qui se passe, soutien à Gaza, et que vous discutez avec ces gens-là, que vous êtes avec des gens qui pensent comme vous au final, et que après ça vous construisez politiquement, vous construisez un front. Hein, on peut créer un front, hein, mais quand je parle d'une opposition, je parle pas d'une opposition contrôlée, je parle pas d'une opposition acceptable pour le pouvoir et surtout pour le pouvoir génocidaire israélien. Je parle d'une véritable opposition
vous
politique
vous dites
qui devient contre
vous. Génocidaire.
Ah moi, pour moi, oui, effectivement.
D'accord,
le gouvernement israélien, le gouvernement est israélien est génocidaire, criminel, et ce qui fait, et encore une fois, il a d'ores et déjà perdu sur le terrain moral et il n'est plus légitime. Il est toujours assez puissant, effectivement, sur le plan militaire, par la barbarie et par la violence. Mais encore une fois, on ne mélange pas, je ne mélangerai pas, je ne tomberai pas dans ce piège qui consiste à retourner le peuple palestinien contre le peuple israélien, etc., etc. Les morts sont des morts et c'est dommage et c'est malheureux. C'est le principal. Le principal le responsable de ce carnage, le responsable de cette abomination, ça reste le gouvernement génocidaire israélien.
Vous dites le gouvernement génocidaire. Non mais attendez, ça n'engage que vous, effectivement.
Ah, alors
vous,
c'est ce que je pense.
D'autres effectivement, amènent les choses de façon avec des propos plus mesurés. Mais bon, on va en parler, on en parle.
C'est intéressant, effectivement.
Rokia de Paris, j'imagine. Rokia, bonjour Rokia.
Bonjour.
Comment allez-vous, ça va ?
Ça va bien, et vous ?
Très bien, je vous remercie infiniment. Alors, on vous écoute, ma chère Rokia.
Alors, moi, j'ai une question. Je voudrais savoir ce que vous pensez du blackout des images en France.
Ah, bonne
Pourquoi
question.
La France, qui est soi-disant un pays démocratique et libre, aucune info ne circule, à part les journaux écrits. Aucune chaîne ne transmet des images sur ce qui se passe à Gaza. Aucune information. La journée du massacre lors de la distribution de nourriture, elle n'a même pas été commentée à part Le Quotidien. Mais sinon, rien. Blackout sur la France. On dirait qu'on se trouve dans un pays du tiers-monde, quoi, un pays où l'information est contrôlée.
Gamal Abina ?
Oui, alors c'est une très bonne question et la réponse est très simple aussi, malheureusement. Il ne faut jamais oublier une chose, c'est que la France et l'Angleterre, Georges Picot, Michael Sykes, ont fait des accords avec un accord secret pour créer Israël. Donc ces gens-là,
oui,
ils voulaient créer un foyer national juif en Palestine, donc Israël, et c'est donc le papa et la maman ne vont surtout pas taper sur leur enfant. Il est logique que la France continue à jouer le mutisme en faisant semblant de pas voir la barbarie parce qu'elle est établie aujourd'hui, parce que ça les dérange, parce qu'ils vont tellement loin. Israël va tellement loin dans sa barbarie. Il l'a fait en 82 avec Peur Galilée, c'est pareil, les massacres à grande échelle, 100 000 morts au Liban, on les a oubliés ceux-là. Israël se permet beaucoup de choses et c'est un enfant gâté qui se comporte mal et ils savent pas comment le tenir parce que le dingo qui est au pouvoir actuellement, lui n'écoute personne. Il se prend pour un génie, il se prend pour un super dirigeant alors qu'il est méprisé par tous les dirigeants du monde. Mais Mais malgré tout, la France et l'Angleterre ne veulent pas dire notre monstre à nous, ce qu'on a créé là-bas, aujourd'hui, conduit des actions extrêmement violentes, voire d'extermination de masse, on peut parler de crimes de masse, alors qu'effectivement, c'est largement documenté. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, on doit se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'il y a un blackout, à part quelques journalistes un petit peu honnêtes, parce qu'il y a une moyenne de 100 à 200 morts par jour, parce qu'on est en train d'affamer un peuple, et ça, c'est documenté, parce qu'on leur a retiré l'eau, et parce que, de toute façon, l'objectif de ces racistes qui sont à la tête de l'État israélien, c'est d'en finir avec la présence des Palestiniens à Gaza. Leur obsession, c'est de les foutre dehors. Problème, l'Égypte n'en veut pas. Et donc, c'est vrai que la question posée, c'est ça, pourquoi ils ne le font pas.
Vraie question.
C'est une très bonne question. Ouais. Ben, la réponse est le coup de source, c'est parce qu'on ne doit pas toucher à son enfant, tout simplement.
Alors, juste pour
en
complément, c'est que lorsqu'il y a eu les accords Sykes-Picot et le démantèlement, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'était le démantèlement de l'Empire ottoman.
Tout à fait.
Et le problème, c'est que les Anglais et les Français étaient sur le coup, et ils avaient poussé au démantèlement de l'Empire ottoman, et ils espéraient mettre la main dans la zone. Le problème, c'est que le peuple palestinien est héroïque. C'est un peuple véritablement héroïque, il est à tous les niveaux, il n'est pas déconscientisé, il est très conscientisé, il est très intelligent, et politiquement parlant, il a commencé à s'organiser déjà à l'époque. Mmh. Et lorsque les Français et les Britanniques ont voulu pousser au développement de l'Agence nationale juive, etc., et qui devait étendre les métastases du gouvernement israélien, eh bien, l'opposition palestinienne a commencé à se cristalliser et à résister. Et on arrive en 1948, et là, on est passé à un autre niveau de violence, parce que le gouvernement israélien a vu que la résistance palestinienne était héroïque et de toute façon elle allait pas céder.
Voilà, ouais, okay. On voit bien.
Oui.
On est d'accord sur ça, mais on n'explique pas le fait que le blackout, il est total sur la France.
Mais si, il y a une directive qui est passée. Non, il y a bien une directive qui est passée. Je vous écoute.
Il n'y a pas de réflexion.
Ils n'en veulent pas de réflexion, c'est tellement évident le crime.
La démocratie, on est des moutons et on suit des consignes.
Non, fort heureusement, l'Internet permet d'avoir une alternative. Mais c'est vrai que les directives de l'État sont très claires. On en parle peu ou pas du tout parce que on ne peut rien faire. Aujourd'hui, le type qui est au pouvoir là-bas veut la guerre à tout prix. Il veut pas l'État palestinien, il le revendique depuis des années et va tout faire pour exterminer le plus possible de gens, pour les terroriser, pour qu'ils dégagent. Donc c'est simplement ça.
Mais on peut faire en Ukraine et on ne fait pas en...
Oui, c'est parce que l'Ukraine, c'est un rapport géopolitique.
Roca.
Ouais, juste pour dire, Roca, merci de ton intervention, mais effectivement, là où je déresponsabiliserai pas quand même le peuple, c'est que voilà, on fait tous des choix et rien ne les empêche de faire le choix d'étudier, de bûcher quelques bouquins et d'arrêter de scroller sur TikTok pour parler un peu familièrement.
Roca, merci infiniment d'être intervenu sur l'antenne de Désinformé sur
RFM.
Merci
à vous.
Question pertinente, en tout cas, cela dit.
Hein. Ouais.
Bien. Roca, elle suit la chose, hein, Roca. Mmh. Elle a bien raison. Ben, écoutez, vous êtes nombreux à le dire à l'antenne. Oui, effectivement. Sarah de Paris. Bonjour, Sarah.
Bonjour, Adil.
Bienvenue.
Vous allez bien?
Très bien. Ouais. Je vous remercie infiniment, ma chère Sarah. Je veux faire participer les auditeurs au maximum.
Oui, normal.
Je veux les entendre, vous voyez.
J'ai le monsieur là qui parlait, je ne sais pas qui c'est, mais...
Jamal Abina ou Jimmy Dalidou, l'un des deux.
Voilà. Et donc moi, ce que je ne comprends pas, c'est que la justice ne fonctionne plus. Donc, alors, on ne va plus... Il va y avoir des pays qui vont se soulever, et puis il va y avoir des pays qui vont attaquer d'autres pays. Ils sont... Et là, il va y avoir quelque chose d'incroyable, parce que les peuples, on est en train de bouillonner parce qu'on ne sait pas quoi faire, mais il va y avoir un moment où ça va éclater partout dans le monde, quoi. Parce qu'il n'y a plus de justice. Il y a une justice pour certains, mais pas pour d'autres.
Oui.
Et c'est pas possible, ce n'est plus supportable tout ça.
Vous avez bien raison, ce n'est plus supportable. Et c'est d'ailleurs c'est pour ça
qu'on
que.
Fait, c'est vrai qu'il dit, quand il dit les manifestations, effectivement, les manifestations, ça ne sert à rien. Parce que si on voulait de la Palestine, il y a deux choses à faire. Par exemple, l'Arabie Saoudite, elle bloque son pétrole et son gaz. L'Algérie, c'est la même chose. Eh bien, ils vont se plier. Les États-Unis vont se plier, quoi. Il y a deux choses à faire, c'est tout. C'est simple.
Oui, ouais, effectivement.
Alors, peut-être qu'il faut faire de la pression sur ces...
Bah, la pression, elle commence, là. Elle commence. Moi, ce qui m'inquiète, voilà. c'est l'acheminement, surtout. Ce qui me préoccupe, là, en ce moment même, hein, si vous voulez, c'est cet acheminement. Comment on achemine, justement, ces paniers
Le truc, c'est que vous avez bien constaté que il y avait, du côté de Rafah, à la frontière égyptienne, il y avait presque 2 millions, quasiment 2 millions de Palestiniens.
Et puis les Américains, en ce moment, les seuls Américains ont été sommés. Vous avez vu que
les food trucks, les fameux food trucks ne passaient même pas. Alors, parce que le gouvernement égyptien avait mis son veto.
C'est plus compliqué que ça.
Oui, mais le food truck qui passait, l'armée israélienne leur tirait dessus.
C'est pas le gouvernement égyptien qui met son veto. Les accords de 77 interdisent à l'Égypte d'avoir un contrôle à la frontière. Les gens ne savent pas ça. Il y a une frontière, mais ils n'ont pas le contrôle. Il y a une fameuse ligne de démarcation. Donc l'Égypte n'a pas la main. Si l'Égypte avait la main, elle laisserait passer les camions. L'Égypte a tout intérêt à laisser passer les camions parce qu'il ne veut pas les Gazaouis.
Où a été la pression diplomatique politique
pour
que les aides humanitaires puissent passer plus facilement?
Non, il les bombarderait directement. Il n'y a pas l'armée égyptienne.
Parce que là, on se retrouve à un moment où c'est sur les avions qui balancent les aides humanitaires et c'est largement pas suffisant.
Mais dans le Sinaï, non, mais je suis d'accord. Dans le Sinaï, le contrôle du Sinaï est supervisé avec Israël. Donc le problème qui se pose aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que les États-Unis, au lieu de parler d'un port ridicule à Gaza, n'imposent pas par la force que les camions passent par voie terrestre?
Tu sais bien pourquoi les États-Unis le font.
On le sait, parce qu'ils sont, ils sont complices.
Tu sais bien.
Complicité active. Mais c'est pour ça, quand je pose la question, c'est une fausse question.
C'est ironique.
Dans les faits, on pourrait faire passer des centaines de camions. D'ailleurs, des amis sont allés là-bas, Sabrina Sebaï, par exemple, ou avec les Meloulis, ont été sur place, ils ont vu des centaines de camions bloqués parce qu'on ne veut pas les laisser passer. L'objectif, c'est de les exterminer. Il faut être très clair. Qu'ils aient un traumatisme et qu'ils partent. Et d'ailleurs, le gouvernement sioniste israélien, raciste, on peut le dire, hein, dit quoi? On va les inviter à partir. On va les pousser à partir. On va leur demander de partir de leur propre progrès, on va les pousser à le faire. Donc en réalité, c'est un coup de pression violent.
Donc c'est bien un génocide, parce que le génocide, entre autres, est déterminé par l'intention. L'intention d'exterminer un peuple, l'intention de liquider un peuple et le raser de la surface de la terre. Donc effectivement, alors je tiens à préciser quand même, c'est pas un risque de génocide, parce qu'on les entend aussi, ceux qui parlent de risque de génocide. Non, ça, il faut arrêter de jouer avec les mots. C'est un génocide à une étape très avancée. Il n'y a pas de risque de génocide. Ça, on est déjà très loin du risque. C'est un génocide très avancé.
Bon, écoutez, on continue d'en parler en tout cas. Il est 19h32 précisément sur l'antenne des informés sur Beurre FM. J'ai des invités qui sont arrivés, effectivement, qui se sont retrouvés coincés dans les bouchons. Et on est ravis de vous recevoir. Mais bon, ça arrive, hein, vous savez, quand le périphérique. Vous avez emprunté le périphérique, monsieur le maire. Bonjour.
Ouais, bonjour. Ouais, on vient d'un peu loin aussi.
Vous venez de l'autre côté, c'est-à-dire de l'ouest de Paris.
De l'ouest.
Bonjour également.
Bonjour.
Écoutez, merci monsieur le maire, monsieur Patrick Chemovitch, vous êtes avec nous ici même. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci évidemment. On va parler exclusivement de la situation à Gaza, mais surtout de cette fameuse convention de coopération entre une ville en Palestine et la vôtre, Colombes.
Tout à fait.
Pour la situer, c'est le 92 dans les Hauts-de-Seine.
Tout à fait.
Alors à tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous, on marque juste une pause et on se retrouve pour en parler. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h, les informés présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh bien, vous savez quoi, nous sommes très heureux, si vous venez de nous retrouver, d'accueillir le maire de Colombes. Le maire de Colombes, on a beaucoup de retard et on va tenter de le rattraper, ce retard. Merci à Gamal, en tout cas, il y a Jimmy. Le face-à-face était très intéressant sur la situation à Gaza. Monsieur le maire, bonjour. Monsieur le maire de Colombes, monsieur Patrick Chemovitch, bonjour.
Bonjour.
Mais également aussi, il est venu accompagné du maire, l'adjoint au maire délégué à la coopération et la solidarité internationale, monsieur Ada Bekouche. Bonjour, monsieur le maire adjoint.
Bonjour.
D'abord, monsieur le maire, première question. Merci d'être avec nous ici aujourd'hui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Quel regard portez-vous sur la situation aujourd'hui, qui est évidemment très commentée sur le plan international par tous les pays, y compris la Chine, là, il y a quelques heures à peine, qui dit effectivement que la situation, c'est pas les préoccupants, c'est que là, on est en train d'assister à quelque chose qui, évidemment, hors civilisation. Hein. Voilà, clairement. Vous, quel regard portez-vous aujourd'hui sur la situation à Gaza et à Rafah?
Alors, il y a deux situations. Il y a la situation à Gaza, il y a la situation en Cisjordanie, qui n'est pas complètement la même, et il faut évoquer les deux. Gaza, c'est un massacre littéral, avec des populations civiles qui sont étranglées. Moi, j'utilise souvent l'image d'un nœud coulant, concert, et puis à un moment donné, on étrangle à la fin.
Vous ne tournez pas autour du pot, vous y allez, effectivement, sans mesurer les propos. Vous dites qu'aujourd'hui,
on voit tous les images, les mêmes images sur les médias. On entend tous les témoignages. Encore aujourd'hui, on voyait des enfants qui mouraient de faim dans les hôpitaux. C'est une situation inadmissible. Il y a deux mois, on parlait de crimes de guerre. C'est évident qu'on était dans un système d'une guerre offensive de l'armée israélienne. Là, on est dans autre chose. On a passé une mesure et on est dans un système. Il y a des enquêtes qui sont menées aujourd'hui qui identifient comme pouvant découvrir. Alors, je vous entendais tout à l'heure à la radio, on écoutait dans la voiture débattre, mais dans un système qui est presque génocidaire. C'est-à-dire que
vous dites pas le mot génocidaire.
Je ne dis pas parce que je pense qu'il faut aussi étayer juridiquement le fait. Voilà. Donc, on peut le dire dans les commentaires, etc. Mais juridiquement, aujourd'hui, il faut qu'il y ait des autorités.
Est-ce qu'on peut parler d'un massacre ?
Oui, on peut parler de massacre. Il y a quand même des milliers de morts et des milliers de blessés. On oublie souvent les blessés. On parle des morts, on ne parle pas des blessés. Il y a 30 000 morts, 60 000 blessés au minimum.
Monsieur le maire, Monsieur Patrick Chemovitch, justement, est-ce que, comme certains commentateurs, vous dites, effectivement, ça justifie le 7 octobre. C'est parce qu'il y a eu le 7 octobre que Netanyahou justifie cette politique, évidemment, de massacre.
Non. Alors, le gouvernement israélien, à mes yeux, c'est un gouvernement quand même d'extrême droite, fascisant. En tout cas, pour une partie de sa composition, certainement, d'extrême droite sûre. Et donc, rien ne justifie ce qui se passe. Ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est horrible. C'est 1200 morts du fait du Hamas. Mais on part pas de rien non plus. On part d'une situation antérieure qui dure depuis plusieurs décennies. Et de ce point de vue-là, l'État d'Israël a aussi des responsabilités historiques par rapport au peuple palestinien. Et donc, ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est critiquable. Il y a eu 1200 morts et des fois de manière relativement violente, sauvage, etc. Et y compris, on parle de viol aussi dans certains témoignages. Mais ça ne justifie pas qu'on veuille faire disparaître toute une partie d'un peuple de la Terre. Voilà.
Vous êtes d'accord quand la Chine dit que la guerre à Gaza est une honte pour la civilisation ?
Il y a plein de guerres. Les guerres, en général, c'est toujours une honte pour les civilisations, quelles qu'elles soient. Donc alors, celle-là et d'autres.
Je voudrais m'adresser aussi à votre... L'adjoint au maire, délégué à la coopération et solidarité internationale, vous partagez ce que dit monsieur le maire. Vous, quel regard aujourd'hui? Quel est votre sentiment sur... Alors moi, j'ai ouvert l'antenne, vous avez écouté la radio, vous avez entendu donc les auditeurs défiler sur l'antenne. Beaucoup sont écœurés, dégoûtés et désarmés. Alors vous, aujourd'hui, justement, quel est votre sentiment sur la situation aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une solution finalement?
Je ne sais pas si la solution est immédiate, mais en complément de ce que vient de dire monsieur le maire, c'est que... On perçoit une chose. Historiquement, ça va être quand même une tâche indélébile dans la période actuelle. On est au 21e siècle. On ne peut pas considérer que ce qui se passe à Gaza puisse relever d'une quelconque civilisation. On a isolé un peuple. 2 300 000 habitants sous blocus depuis 2006. Et aujourd'hui, on s'attaque à eux par des moyens modernes, des moyens monstrueux de guerre, et on est en train, on les isole. C'est comme, je sais pas moi, on met quelqu'un, 3 ou 4 personnes dans une chambre, et puis on tire dessus, ils n'ont nulle part où aller. D'autant plus que depuis le début, depuis le 9 octobre, on leur dit, partez quelque part pour vous mettre à l'abri, mais il n'y a d'abri nulle part. Ceci étant, sur le plan juridique, il y a deux juridictions internationales qui prennent en main cette affaire-là. La Cour internationale de justice, le 26 janvier, a rendu une ordonnance. Elle a dit à l'État israélien, prenez les mesures pour que les Gazaouis puissent vivre normalement. En tout cas, même pas dignement. Or, depuis ce moment-là, on a réduit déjà les camions et autres qui rentrent. Et donc ça, c'est un risque de génocide si ça continue comme ça. On ne peut pas affamer un peuple et l'attaquer.
Alors, monsieur le maire, monsieur Patrick Semovitch, justement, votre ville de Colombes, dans le 92, dans les Hauts-de-Seine, a décidé d'initier une coopération avec la ville de Salfit, en Cisjordanie. Pour quelle raison d'ailleurs ? Alors, certains vous diraient, vous êtes courageux. En ces moments, évidemment, très compliqués, très complexes entre les.
Bah, nous, on considère qu'on n'est pas courageux, qu'on est normaux. Et qu'on agit normalement face à des situations qui sont anormales. Et c'est notre responsabilité d'hommes et de femmes politiques, puisqu'on n'est pas que tous les deux, on est une équipe municipale. Et puis, alors pour répondre pourquoi, d'abord parce que depuis 3 ans que nous sommes en responsabilité à Colombes, on a relancé des coopérations internationales. On a créé une délégation que ADA occupe, qui est une relation, une délégation aux relations internationales qui n'existait pas avant. Depuis, on a renforcé, on a un jumelage traditionnel avec une ville allemande, Frankenthal, depuis après la guerre. Et puis, on a relancé avec le Sénégal, avec une commune du Sénégal, avec une commune de Tunisie. Et puis, on a aussi une approche sur l'Europe avec le Portugal. Donc, c'est pour nous naturel de regarder ailleurs aussi, parce qu'on est aussi une ville très mosaïque, très mélangée, très brassée.
Donc, ça s'est traduit avec une convention qui a été signée,
À chaque fois, on délibère sur une convention. Et puis, il y a eu la Palestine. Alors là, nous, on s'est déplacé à Ramallah. On s'est déplacé à Ramallah au mois de mai, dans le cadre de comment ça s'appelle ?
La coopération des
coopération de villes françaises ou de territoires français avec la Palestine. Et puis on a discuté avec les uns les autres. Et puis on a été contacté également par des élus de Palestine, dont le maire de Ramallah, qui est aussi le président de l'association des villes de Palestine, que ce soit en Cisjordanie ou à Gaza. Et donc il a une responsabilité politique aussi, de ce point de vue-là, d'avoir le maximum d'accord, à la fois pour trouver des modalités de coopération, mais aussi pour avoir un soutien politique aussi vis-à-vis de ce qui se passe.
Mais quel bénéfice allant tirer justement votre ville, la ville de Colombes, quel bénéfice allant tirer ? Quels sont les bénéfices attendus même d'ailleurs lorsque vous signez cette coopération, cette convention de coopération entre la ville de Salfit en Cisjordanie et la vôtre, celle de Colombes, dans le 92, dans les Hauts-de-Seine ?
Le bénéfice, nous, c'est de pouvoir agir en relation avec une ville palestinienne et donc de pouvoir avoir des échanges. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour donner l'aumône à des Palestiniens, mais de donner des compétences, de donner envie, faire que des jeunes se rencontrent, faire qu'il y ait des échanges culturels, sportifs ou autres, mais aussi que eux puissent nous apporter leurs compétences. Hier soir, on a fait une réunion publique, on a passé nos amis de Salfit sont venus avec un petit film. On a vu aussi qu'ils avaient des savoir-faire, des compétences sur les questions d'assainissement, d'énergie solaire, etc. Et donc, il y a peut-être aussi des apports qu'on peut avoir de la part de leur part.
Monsieur Ada Bekou, justement, vous, monsieur le maire adjoint, beaucoup, sur plusieurs jours, là, depuis plusieurs jours d'ailleurs, il se passe, la ville de Colombes, elle vit autour de cette convention, justement. Vous pouvez nous en parler ? Ça s'est traduit par quoi précisément ?
Ce que je peux dire, aujourd'hui, quand on a reçu la délégation de Salfit, ou quand on a projeté de recevoir la délégation de Salfit, bien sûr, c'était la coopération avec Colombes. On a signé une convention qui doit mettre en œuvre des actions et des projets dans plusieurs domaines, entre autres la culture, l'insertion, l'emploi, la jeunesse. Mais au-delà, c'était surtout de essayer de nouer des contacts entre les populations et les organisations de la société civile et éventuellement les entreprises. Mais il y a aussi le fait que, en recevant la délégation de Salfit, dont le maire est président de l'association des maires de Palestine, Cisjordanie et Gaza, c'est aussi, on les a fait rencontrer les institutions nationales, pour que eux ils portent un message aussi bien auprès des habitants de Colombes, des Colombiens et Colombiennes, mais également auprès des institutions. Ils ont rencontré des parlementaires, aussi bien au Sénat qu'à l'Assemblée nationale, avec la visite des institutions. Ils ont rencontré au ministère des Affaires étrangères, le service qui s'occupe et la direction qui s'occupe de la coopération décentralisée. Ils ont rencontré l'association française qui regroupe des collectivités locales qui font de la coopération décentralisée, la coopération internationale, tout ça pour que eux ils portent le message et surtout de dire que en Palestine, il y a des institutions élues et dont le maire de Salfit est un des représentants.
Monsieur le maire, dernière question, et effectivement le temps file et on arrive déjà au terme de cette émission, je voudrais vous poser cette dernière question, si vous voulez bien, monsieur Patrick Chemovitch, monsieur le maire de Colombes, dites-moi aujourd'hui, vous savez que on en parlait tout à l'heure, comment vous voulez, sous quelle forme vous, maire de Colombes, vous voyez-vous cette manière de contribuer à améliorer les conditions de vie là-bas, à Salfit, en Cisjordanie?
Alors, Salfit, ils vivent une situation difficile. Je voudrais remettre aussi le contexte. C'est une ville de 20 000 habitants, mais avec un certain nombre de villages autour qui fait qu'ils atteignent le chiffre de 80 000 habitants à peu près. Un peu moins. Mais tout autour, il y a toute une série de colonies israéliennes avec 80 000 colons, dont certains qui sont militarisés, agressifs, qui s'en prennent aux populations. Quand vous avez les récoltes des oliviers, les colons peuvent tirer sur les voitures des habitants et blesser, voire tuer des monde. Donc il faut qu'on fasse le bon diagnostic. On a prévu de se rendre à Salfit avant la fin de l'année pour diagnostiquer, voir comment on peut aider concrètement et peut-être aussi sur de la construction d'équipements.
Avant de retrouver le code 9, parce qu'on a évidemment des éditorialistes qui nous livrent leurs billets d'humeur chaque jour. Monsieur le maire, monsieur Patrick Chemovitch, d'une phrase, qu'est-ce que vous dites à nos auditeurs qui nous écoutent partout en France? Qu'est-ce que vous avez envie de livrer, un message qui vous tient à cœur? De la même question pour vous tout à l'heure. En quelques secondes.
Moi, c'est de ne pas regarder, de ne pas faire l'autruche et de voir les choses telles qu'elles sont dans cette région du monde. Il y a d'autres régions du monde où il y a des grands malheurs, mais celle-ci, la violence et éclate sous les yeux de tout le monde, et de bien regarder cette violence-là et de dire que je peux faire quelque chose de là où je suis.
Monsieur Ada Bekouche, monsieur le maire adjoint.
Moi,
D'une
phrase, les enjeux internationaux, les enjeux ailleurs peuvent avoir une incidence chez nous. Et la solidarité, ce n'est pas un vain mot, c'est une obligation morale aujourd'hui pour préserver la civilisation dont on parlait tout à l'heure.
Bravo messieurs. Monsieur Patrick Chemovitch, merci d'avoir été avec nous.
Merci de nous avoir
invités. C'est un plaisir.
Invité.
Vous revenez quand vous voulez, hein. Mais bon, on va tenter de démarrer demain, à l'heure. Bah, revenez demain si vous le souhaitez. Merci, monsieur Ada Bekouche, merci infiniment.
Merci
tout de suite, c'est le Quoi de Neuf avec une minute de retard.
Les informés. Le Quoi de Neuf.
Le Quoi de Neuf, c'est avec, comme chaque jeudi, le directeur adjoint de l'IPSE. Vous savez, en attendant, Pascal Boniface. C'est monsieur Didier Billion. Bonsoir, Didier Billion.
Alors, c'est pas l'IPSE, c'est l'IRIS. Hein.
L'IRIS, hein, pourquoi j'ai dit l'IPSE? C'est l'IRIS, vous avez raison. Je sais pas pourquoi, Toutes mes excuses. Alors, je vous lance avec votre billet d'humeur sur Gaza, dernière évolution. Oui. Allons-y.
Oui, en effet, on le sait, la situation à Gaza s'aggrave de jour en jour. Le nombre de 30 000 victimes est désormais dépassé et constitue probablement un chiffre très inférieur à la réalité. Nous savons qu'il y a de 60 à 80% des bâtiments qui ont été détruits, que la situation sanitaire elle est de plus en plus préoccupante et que désormais la famine menace des dizaines de milliers de Palestiniens. Alors dans ce contexte absolument effroyable, il semble qu'il y ait paradoxalement quelques modifications à l'œuvre, dans un contexte néanmoins tellement volatile qu'il faut rester très très prudent. Au niveau humanitaire tout d'abord, si la plupart des convois terrestres continuent à être bloqués par l'armée israélienne, on assiste depuis quelques jours, à des parachutages de nourriture. Alors, si cela peut contribuer à sauver quelques vies, eh bien tant mieux. Mais de ce point de vue, la communication des États-Unis atteint l'abjection. En effet, le week-end dernier, ils ont largué, les États-Unis, l'équivalent d'environ 40 000 rations de nourriture, je dis bien 40 000, ce qui est absolument dérisoire devant les besoins. Mais surtout, ce sont les États-Unis qui, par trois fois depuis le 7 octobre, ont posé leur veto à des résolutions du Conseil de sécurité exigeant un cessez-le-feu. Ce sont les mêmes qui ont versé 15 milliards d'aides militaires à Israël depuis 7 octobre. Donc à Washington, visiblement, une fois de plus, le cynisme n'a pas beaucoup de limites. La question qui se pose, elle est claire et nette, c'est l'ouverture de Rafah pour que les centaines de camions qui attendent du côté égyptien puissent enfin passer. Il y a désormais, je le dis très solennellement, une urgence existentielle pour les Gazaouis. Il y a aussi le niveau diplomatique, je vais aller très très vite. Nous savons qu'il y a des tractations qui existent depuis de nombreux jours et on nous annonce qu'il pourrait y avoir un cessez-le-feu qui débuterait avec le ramadan, c'est-à-dire le week-end prochain, et qui pourrait durer de 4 à 6 semaines. Rien n'est décidé, c'est une lueur d'espoir incontestable, mais pour ce faire, il faudra autre chose que des pressions vocales sur Israël, mais au contraire, menacer Israël de pressions beaucoup plus fortes, voire de sanctions. Enfin et dernière chose, il y a des évolutions politiques qui commencent à se manifester à la fois au sein des sociétés israéliennes et palestiniennes. Alors, en Israël tout d'abord, bien que très très minoritaire, il y a des manifestations anti-Netanyahou qui se multiplient, qui parfois, pas toujours, ont des mots d'ordre réclamant le cessez-le-feu. Mais est-ce qu'on peut sérieusement attendre un sursaut de conscience de ce côté-là? On peut en douter, puisqu'un sondage récent paru en Israël la semaine dernière indique qu'il y a encore 25% des sondés qui sont pour chasser purement et simplement les Palestiniens de leur territoire. Mercredi. Du côté palestinien, il y a évidemment des événements qui se déroulent aussi du côté de l'autorité palestinienne, avec notamment la démission du Premier ministre palestinien, probablement à la fois le fruit des pressions des États-Unis, mais surtout parce que se développent ces derniers jours, ces dernières semaines, des rencontres entre responsables du Fatah, le parti du président Mahmoud Abbas.
Je dois rendre l'antenne, mon cher Didier. Je dois rendre l'antenne.
Ouais.
Oui. Allez-y, finissez votre phrase, mon cher Didier, allez-y.
Nous avons donc la perspective d'une réconciliation interpalestinienne qui pourrait aboutir à l'intégration du Hamas au sein de l'OLP. Toutes ces nouvelles sont évidemment, encore une fois, à prendre avec prudence, mais pour autant, aujourd'hui, rien de plus urgent que d'exiger toujours et encore le cessez-le-feu qui reste la revendication centrale.
Merci Didier Billon, donc le directeur. Très bonne analyse, hein, bravo, ouais, bravo ouais. Didier Billon. Directeur adjoint de l'ERIS, merci infiniment, à la semaine prochaine, sans faute.
Oui, d'accord.
Avec plaisir. Merci, monsieur le maire.
Merci à vous.
Merci, monsieur le maire adjoint. Merci, Jimmy Dalidou. Merci, Gamal Abina. Merci à Solal. Je rends l'antenne tout de suite et à demain avec autant de plaisir et on ne lâche rien.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.